90.3 FM.
Cinema Politica is thrilled to announce a special screening of the program Queer for Palestine on November 15 at 7 p.m. at La Sala Rossa. From intimate portrayal to experimental cinema, this program of queer shorts from Palestine and Lebanon examines the intersection of gender and sexual identity with the Palestinian liberation struggle. Co-curated with programmers from Regard Palestinia and co-presented with the Feminist Media Studio and the Palestinian Youth Movement, the event is part of Queer Cinema for Palestine, the first ever 10-day film festival.
I'm at CQOT in Montreal, 90.3 FM. Keep on rocking in the free world.
Attention McGill undergraduate students, referendum is upon us. Exercise your right to vote on questions that matter to you and your campus experience. Vote in the fall referendum period from Monday, November 8th to Friday, November 12th. Look for your ballot in your McGill student email between November 8th to 12th. Let's rock the vote.
Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec. En cas de symptômes d'allure grippale ou s'apparentant à ceux de la COVID-19, tels que la fièvre, la toux ou la perte du goût ou de l'odorat, ou si vous avez été en contact avec une personne infectée par le virus, il est essentiel de passer un test de dépistage et de respecter les consignes d'isolement, même si vous êtes vacciné. Le dépistage demeure un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour en savoir plus, visitez québec.ca/test-covid-19. Un message du gouvernement du Québec.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien à l'émission Café sur les ondes de CKUT au 90.3 FM. Aujourd'hui, en ce beau vendredi soir, après une semaine plus frisquée, là, on sent que l'hiver y arrive. J'espère que vous en êtes heureux. En ce qui me concerne, j'ai déjà hâte que le printemps revienne. Mais en tous les cas, ce soir, je vous délivre une petite critique du livre Les Désorientés, écrit par Amine Malouf. Ensuite, notre collaboratrice Alex vous a concocté un mix musical. Et enfin, Anthony, accompagné de Marie-Pierre, vous fera une critique du film Les Oiseaux Ivres, réalisé par Ivan Grbovic, qui va représenter le Canada aux Oscars dans la catégorie Film International. Donc voilà, bonne émission! Donc, je suis Lynn et c'est ma première capsule à l'émission Café. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du roman Les Désorientés, écrit par Amine Malouf. Il a été publié en 2012 chez les éditions Livres de Poche. Je trouvais que c'était quand même si ça fait quasiment une dizaine d'années, là, veux pas qu'il y a 2012 qui est passé, ça fait déjà 10 ans. Mais je trouvais que les thèmes abordés dans le livre étaient vraiment actuels. C'est des thèmes qui sont encore d'actualité, dans le fond. Puis, fait que c'est ça. Donc, Amine Malouf, en gros, tout comme le personnage d'Adam, qui est le personnage principal du roman, est né à Beyrouth, au Liban, et il a déménagé à Paris dans les années 70 pour fuir la guerre civile du Liban. Donc, il vit en France depuis 1976, et il a été récompensé plusieurs fois pour ses œuvres, entre autres par le prix Goncourt en 1993 pour son livre « Le rocher de Tanyos ». Il est membre de l'Académie française depuis 2011 et il continue d'écrire des romans de fiction et de non-fiction qui portent principalement sur les thèmes de l'identité et de l'histoire du Moyen-Orient. Tous des thèmes qui me rejoignent énormément. Et c'est aussi pour ça que j'ai adoré le livre. Donc, il écrit le résumé du roman au jeu. Donc, c'est l'auteur qui parle quand il écrit le résumé. Je vais vous le lire à l'instant. Dans Les Désorientés, je m'inspire très librement de ma propre jeunesse. Je l'ai passée avec des amis qui croyaient en un monde meilleur. Et même si aucun des personnages de ce livre ne correspond à une personne réelle, aucun n'est entièrement imaginaire. J'ai puisé dans mes rêves, dans mes fantasmes, dans mes remords, autant que dans mes souvenirs. Les protagonistes du roman avaient été inséparables dans leur jeunesse, puis ils s'étaient dispersés, brouillés, perdus de vue. ils se retrouvent à l'occasion de la mort de l'un d'eux. Les uns n'ont jamais voulu quitter leur pays natal, d'autres ont immigré vers les États-Unis, le Brésil ou la France. Et les voies qu'ils ont suivies les ont menés dans les directions les plus diverses. Donc, l'histoire est racontée de plusieurs manières. En premier, il y a le présent, qui est du point de vue d'Adam, mais il est écrit à la troisième personne. Donc, c'est un narrateur omniscient, mais du point de vue d'Adam. Ensuite, il est raconté aussi par les correspondances avec ses anciens amis qu'il tente de réunir pour donc les funérailles d'un de leurs amis d'enfance, mais d'adolescence. Et aussi, l'histoire est racontée par ce qu'il écrit dans son journal dans le moment présent. Donc, il raconte ses journées de façon plus personnelle, plus détaillée. C'était vraiment important pour moi de parler de ce livre parce qu'il m'a vraiment marqué. Entre autres par son écriture vraiment sincère, par les personnages dans lesquels on se reconnaît facilement et à qui on s'attache beaucoup, et aussi surtout pour ces thèmes qui sont tellement actuels. Par exemple, un thème vraiment capital dans le livre Les Désorientés, c'est l'appartenance. Il y a plusieurs types d'appartenance qui sont abordés. Premièrement, l'appartenance à un groupe d'amis. Ça, c'est le prétexte du livre. Dans le fond, Adam cherche à réunir ses amis d'adolescence au Liban pour rendre hommage à l'un d'eux qui vient de mourir. Les amis en question ne se sont pas vus pour certains depuis des dizaines d'années, mais la plupart d'entre eux sont tout de suite motivés à faire le voyage pour se retrouver. Ils retrouvent directement la complicité qui les réunissait et ils veulent se réunir. Ensuite, l'autre appartenance, qui est très présente, c'est l'appartenance à une nation, à un peuple aussi. Puis c'est un gros enjeu du livre. On comprend que c'est vraiment un sujet de dispute et de désaccord entre plusieurs personnages. Dans le fond, à cause de la situation difficile au Liban, qui est due aux conflits politiques, à la violence, tout ça, ça devient plus présent au début des années 1970. Donc, la plupart des membres du groupe d'amis se sont exilés, dans le fond, dans des continents différents pour trouver une vie plus paisible et pour fonder leur famille. Mais d'autres membres du groupe choisissent la loyauté à tout prix et ils sont restés au Liban. Donc, ça a vraiment creusé un fossé entre eux. Ils sont pas d'accord par rapport à la loyauté, leur priorité de vie. Ça les a éloignés à quelque part. Puis finalement, il y a un autre thème que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que c'est pas un thème qui est super abordé à cette époque-là, surtout que c'est pas un auteur qui se prononce nécessairement sur ces thèmes-là à la base, mais il y a un passage qui, moi, personnellement, je l'ai interprété comme étant un lien avec le polyamour. J'ai trouvé ça super intéressant, fait que je vais vous le raconter un petit peu sans voler de punch du tout, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a un passage dans le roman pendant lequel un personnage se rapproche d'un autre personnage, mais la première personne est mariée, et par la suite, on découvre que la personne qui n'était pas mariée a en fait appelé la femme de la personne de qui elle s'est rapprochée pour lui demander la permission, parce que la femme se trouvait sur un autre continent. Donc, je sais pas si c'est clair, il y a deux personnes sur un continent qui se rapprochent, il y en a une des deux qui est mariée. L'autre personne appelle la femme de l'homme marié sur un autre continent pour lui demander la permission. Et surprenamment, la femme a accepté que son mari couche avec l'autre femme. Puis après ça, c'est super beau là, comment c'est expliqué. On comprend que c'est vraiment par pur amour. Puis la femme de l'homme marié lui fait vraiment totalement confiance. Elle sait que c'est une exception parce que son mari va revenir sur son continent après, puis c'est vraiment parce que les circonstances sont vraiment spéciales, puis elle a accepté cette situation que pas beaucoup de personnes auraient accepté, puis au fait aussi le fait que la première personne a demandé la permission à la femme mariée, j'ai trouvé ça vraiment spécial, puis c'était aussi une marque de respect, j'ai trouvé, fait que voilà. T'sais, personnellement, c'est la première fois que je lisais une situation comme celle-ci, dans lequel la situation n'était pas poussée au drame à cause de l'adultère, si on peut l'appeler comme ça, même si c'est permis, dans le fond. Mais ça faisait que montrer le grand respect et l'amour que se portaient les personnages. Fait que bref, le sentiment que j'ai retrouvé pendant la lecture du livre et après, c'est vraiment un sentiment de nostalgie, mais la nostalgie légère, c'était pas une nostalgie écrasante. On se laisse vraiment emporter par l'écriture d'Amin Maalouf et par ses personnages, leurs souvenirs. C'est vraiment super intéressant. Il parle beaucoup de la situation politique qui est difficile au Liban. On comprend les liens entre les personnages, la façon dont ils voient leurs priorités, la loyauté, l'appartenance à leur nation, l'appartenance à leur groupe d'amis. Donc voilà. Puis voyez les grandes divisions du monde, les grandes raisons pourquoi le monde est divisé de nos jours, c'est vraiment basé sur l'appartenance et la loyauté, je trouve. Ça entremêle plein d'autres sujets. Ça entremêle l'amour aussi, les convictions profondes. Puis ce roman, je trouvais qu'il élaborait vraiment tous ces sujets d'une façon vraiment magnifique et sincère. Donc voilà. Comme vous avez pu le comprendre, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce roman. Et je vous le conseille fortement si la description que j'en ai faite vous a rejoint.
Bonsoir tout le monde, c'est Alex qui vous parle. J'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours à l'émission Café sur les ondes de CKUT. En ce premier vendredi de novembre, je vous ai concocté un petit mix de musique d'ambient paisible d'artistes issus de la scène montréalaise pour nous faire du bien et aussi en préparation mentale au changement d'heure qui s'en vient demain. Dans un premier temps, on va entendre Mollyo Holly avec la pièce Last Gift, issue de son tout récent album Yopo. Ensuite, ce sera le doux son d'Annette Zenith et Salif Lasso Sanou avec la pièce Magie qui va combler nos oreilles. Et on va terminer ça avec Life Under a Double Sun pour être bien sûr qu'on fasse le plein de soleil du tout récent album Sequence 1 du prismatique duo de synthé instrumental Slow Burn, Light Conductor. Bonne écoute tout le monde et bon vendredi soir.
Kimi e no okuri wa Thank you. The Association des Services de Réhabilitation Sociale du Québec is filing a class action suit. If you were strip searched between July 13, 2006 and July 1, 2011, if you were in one of the following facilities, Bordeaux, Rivière-des-Prairies, Roberval, Saint-Jérôme, or the male sector of Quebec City, you may be able to be part of this claim. For complete details, go to asrsq.ca/class action. That's asrsq.ca/class action. Claims must be filed before January 16th, 2022.
When you tell your girlfriend, "Get changed, you're dressed like a tramp. Change your password so I can see your messages." When are you going to change your mind, you stubborn idiot? Change your attitude when you talk to me. Change your friends. You better change your tone of voice. It's not up to her to change. It's up to you. Violence against women stops now. Talk about it. Do something about it. And call SOS Violence Conjugale. A message from the gouvernement du Québec.
Juste avant de passer à la critique d'Anthony et de Marie-Pierre, je vais vous annoncer une grande nouvelle. Donc, l'émission Café a maintenant une page Instagram. Donc, je vous invite tous et toutes à aller vous abonner. C'est au @CKUT/90.3 FM. Ça va être pas mal le même contenu que sur notre page Facebook où est-ce qu'on va annoncer le contenu des émissions, mais il va aussi avoir du contenu plus inédit que vous voulez vraiment pas manquer. Donc, allez checker ça. C'est au @CKUT/90.3 FM.
Bonsoir, de retour à l'émission Café à CKUT 90.3. Ici Anthony avec Marie-Pierre. Ce soir, on va vous parler du film qui va présenter le Canada aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international. J'ai nommé Les Oiseaux Yves, réalisé par Ivan Grabovic et scénarisé par lui et Sarah Michara. Donc, pour vous mettre en scène un peu, c'est quoi le film? On suit la quête de Willy qui veut retrouver sa Marlena, son amour perdu. Ça va le mener du Mexique au Canada, où il se fait engager comme travailleur saisonnier, un fameux Mexicain qui va aller à la ferme Bécotte, qui est près de Montréal. Donc là, dans le film, il y a plusieurs destins qui s'entrecroisent. Le couple qui vit à la ferme, qui travaille à la ferme, les travailleurs agricoles mexicains. C'est des mondes qui vont se rencontrer, il va y avoir des tensions. Les tensions vont monter, puis il va y avoir des moments de, je vous le dis tout de suite, de réalisme magique qui vont surgir un peu partout durant le film. Est-ce que c'est à peu près ça qu'on a vu, Marie-Pierre?
Ça ressemble à ça. On pourrait éclaircir de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de réalisme magique.
Bien, pour les gens qui en veulent encore plus, on va mettre quelques secondes de bande-annonce et on vous revient avec une belle discussion sur le film.
Bienvenidos. Content de te voir.
Igualmente, gusto verlo.
Hola.
C'est Julie, mon épouse.
La patronne.
Respecto.
Merci.
Antonio, señor.
Jesús.
Willy.
Vous allez travailler sur une des plus vieilles fermes de la région. De 4 générations. C'est le grand-père de Julie qui a bâti la grange en arrière là-bas. Ici, on commence à 5h30 à tous les jours. Si vous n'êtes pas là, vous manquez une journée de paye.
Et los cafés?
Nada más acuérdate por qué estás aquí. Y verás que todo va a estar bien.
Aquí tengo dos personalidades. La del tipo que todos conocen en el pueblo. Y la del que te está hablando en este momento.
Merci beaucoup.
Tu commences à apprendre le français?
Tabarnak!
Y a ti? ¿Quién te espera?
Ya van 4 años.
Bonsoir, vous êtes de retour à Café, à CKUT 90.3. On parle du film Les oiseaux ivres de Ivan Grabovic. Je ne sais pas pour toi, Anthony, mais je pense que c'est vraiment un film qui devait être vu au cinéma sur un grand écran parce que une des caractéristiques principales de ce film-là qui nous marque, on peut le voir, c'est la direction photo. Donc, tout ce qui est le travail sur l'image est absolument incroyable. Il y a une lumière, en fait, qui a été clairement travaillée. Peux-tu nous en dire plus, Anthony, sur ce que tu penses de la lumière dans ce film-là?
Ben oui, j'ai trouvé ce film très, très beau. Je dois avouer que j'ai un petit penchant pour le formalisme. Genre, il y a des gens qui préfèrent l'histoire. Moi, j'aime bien quand il y a un travail sur la beauté, sur les couleurs, sur le cadre. Et tout le long du film, on voit que c'est important, voire potentiellement une priorité. Et je pense que des fois, l'histoire prend le bord pour montrer de la beauté. Ça pourrait être un défaut, mais je pense qu'ici, c'est tellement bien exécuté que c'est émouvant tout le long.
Oui, on voit les personnages souvent en très gros plan sur leur visage qui permet de capter leurs émotions ou sinon les paysages comme les paysages de la Montérégie qui sont présentés sur la ferme sont plus larges, rendent ça presque romantique le travail de l'agriculture malgré la difficulté qu'on perçoit de ce travail-là. Faut noter...
Exact,
oui, vas-y.
Le nombre de couchers de soleil, de dégradé de ciel qu'on a vu. Là. Une chose que j'ai regardée avant pour préparer l'émission, c'est que ça a été filmé avec de la pellicule, donc physique, et ça laisse un grain, quelque chose comme d'organique ou de plus vrai, un peu comme d'aller voir un Ben avec des instruments au lieu d'écouter de la musique 100% électronique. T'sais, il y a une imperfection qui fait du bien, qui comme je trouve qui rend l'image plus facile à prendre au lieu d'une caméra 4K qui est trop parfaite des fois, là.
Oui, il y a un côté un peu plus brut de l'image qui est révélée par la pellicule. On peut aussi dire là, sur la forme que le film a été inspiré là, de façon assumée par le film Days of Heaven de Terrence Malick, qui raconte aussi l'histoire de travailleurs saisonniers qui se présentent sur une ferme, dans ce cas-là, au Texas. Et Terrence Malick a tourné, en fait, presque l'entièreté de ce film-là à l'heure bleue, qu'on appelle, donc le moment entre le coucher du soleil et la nuit complète. Donc, ça demande de grandes ressources cinématographiques, un travail de précision dans la façon de filmer pour permettre, en fait, cette petite fenêtre-là de temps.
Une heure par jour. Tu as une heure par jour pour filmer ce que tu as besoin de filmer.
Exactement. Donc, c'est vraiment très, très court. Donc, ça demande des ressources. Puis là, on s'imagine, même avec la pellicule, bien, peut-être plusieurs pellicules utilisées pour le filmer. Mais véritablement, bien, pour les oiseaux ivres, ça vaut vraiment la peine. Là, ce travail-là nous récompense comme spectateurs.
Oui, exact. Là, on a parlé un peu de forme. J'ai le goût de tout de suite me déplacer vers le fond. Ça serait quoi, selon toi, le thème, le sujet ou ce que le réalisateur voulait nous montrer dans ce film-là?
Mais les deux, on était un peu d'accord pour dire que les problèmes de communication ou cette tension-là entre les individus qui ne se comprennent pas ou qui vivent dans des mondes un peu séparés serait au cœur du film, finalement. Parce qu'on a plusieurs destinées, celle de la famille qui possède la ferme, mais celle des travailleurs étrangers aussi qui se rencontrent.
Déjà
mais
là, on a deux langues. On a le français et l'espagnol. Ça fait déjà un problème ou une tension, là. Un fossé, un espace de communication.
Effectivement, plusieurs personnages dans le film n'arrivent pas à se comprendre ou se parlent un peu dans le vide puisque l'un parle l'espagnol, l'autre le français et l'un et l'autre maîtrisent à peine la langue. Donc, il y a des situations un peu absurdes.
Genre, est-ce qu'il dit quelque chose de vraiment profond? Puis là, il répète, est-ce que tu as compris? L'autre le regarde puis il dit non.
et ça s'arrête là. Donc, les personnages ne comprennent pas. Le père qui est propriétaire de la ferme, joué par Claude Legault, ne comprend pas ce qui arrive trop avec sa femme, qui semble vouloir le fuir ou être distante. Leur fille, Léa, jouée par Marine Johnson, semble vouloir... s'évader de son milieu. Donc, il y a comme une insatisfaction qui habite chacun des personnages puis une difficulté à la partager aussi avec autrui.
Exact. Il y a la relation à autrui, mais il y a aussi un problème de communication, j'ai l'impression, entre les personnages eux-mêmes, entre la réalité qu'ils vivent et leurs rêves, leurs fictions, leurs espoirs. Et des fois, ça fait des tensions à même les personnages.
Oui, certainement. Bon, sans vous en dire trop sur le film, on a même un doute par rapport à aux promesses qui ont été faites à certains personnages et auxquelles ils se raccrochent complètement finalement pour avancer dans la vie puis faire des choix assez importants pour leur destinée. Donc, on voit un peu cette fracture entre la réalité puis la fiction qui est même représentée visuellement. Nous, comme spectateurs, on est parfois confondus entre la réalité de certains événements puis la fiction. Donc, on se demande effectivement est-ce que c'est vrai, puis peut-être qu'on peut... On peut donc parler de réalisme magique en ce moment-là.
C'est ça qui est drôle, c'est que les personnages eux-mêmes vivent du réalisme magique, mais ils sont confrontés entre le réalisme et la magie. Mais le film lui-même use de cette forme-là, qui est le réalisme magique. Marie, peux-tu nous dire un peu c'est quoi exactement le réalisme magique?
Bon, le réalisme magique, c'est déjà une notion qui n'est pas si facile à définir, mais on pourrait la définir comme la présence de magie. Donc, de phénomènes surnaturels ou de inexplicables ou peu communs, disons, dans la vie courante, mais dans un contexte qui se présente comme réaliste. Donc, dans un contexte réaliste, c'est comme le surgissement de la magie sans, faut se rappeler que c'est sans explication. Donc, c'est sans savoir, finalement, pourquoi cette magie-là se produit, sans qu'elle soit nécessairement perçue comme étrange non plus
par les personnages. Donc, il y a quelque chose de normal dans un événement extraordinaire.
Exactement. Souvent, ça crée quelque chose d'assez poétique ou de mystique, puisque rien n'est expliqué, tout est présenté comme normal au spectateur, d'une certaine façon. Un peu étrange.
Est-ce qu'on se donne le droit de parler de notre scène préférée, Marie?
Je pense qu'on peut. En termes de scène réaliste magique,
Il y a une scène fabuleuse qui se passe à Montréal. C'est la fille qui, après une soirée, toute une soirée, et qui, d'autant plus, a pris une petite pilule de drogue, se promène en ville aux petites heures, genre à 4 heures du matin, et là, il y a une Formule 1 qui passe sur la rue, sur René Lévesque, je suis pas mal certain. Et là, c'est tellement bizarre, on se demande est-ce que c'est vrai ou pas. L'auto passe, et là, la police arrive! Donc, tu te dis, OK, ça se peut que ça soit vrai, si en plus, tu sais, c'est pas juste la F1, c'est en plus la réalité ou la réelle police qui arrive.
Et faut dire aussi qu'il me semble le lendemain, dans les nouvelles, on voit l'annonce que le pilote en question se serait présenté donc en retard au départ au départ de la course, donc qui va partir dernier puisqu'il n'était pas là. Donc, au début, notre esprit se dit que c'est un trip de drogue de la jeune fille qui se promène dans la ville après une soirée, ma foi, endiablée. Et on essaye sans cesse puisque... Juste cette image-là de voir la Formule 1 en pleine ville est comme...
C'est tellement beau, là!
C'est ça, tellement beau et inexplicable. On vit avec, hein, ça, parce que le film a cette qualité-là de laisser des images comme ça au spectateur sans nécessairement lui donner d'explication pour la simple, je dirais, la simple poésie ou même le simple romantisme. Il y a un certain romantisme même qui émane de ce film-là.
Oui, c'est bien dit. Dans une image ou une scène de réalisme magique, j'ai l'impression que c'est un vocabulaire poétique, une image poétique. Ça reprend comme les signes ou le fonctionnement de la poésie, mais dans l'image, à un certain
oui.
point.
Oui, puis on peut même le voir pour le traitement du thème des travailleurs étrangers. T'sais, finalement, ce n'est pas une critique sociale tant que ça du travailleur étranger. T'sais, c'est un contexte qui est utilisé pour raconter une histoire, mais tout ça est nourrit plutôt la poésie de l'histoire ou crée un contexte, mais n'est pas l'objet qui est le centre de l'histoire. C'est pas un film qui est nécessairement engagé par rapport à ça.
Même s'il y aurait beaucoup de choses à dire à propos de tout ça, genre engager des immigrants, les faire travailler, j'ai l'impression qu'une chance que dans ce film-là, du moins, c'était pas problématisé ou approfondi parce que ça aurait été trop lourd. Mais son utilisation pour comme le contexte est vraiment appropriée quand même.
Tout à fait. On peut finalement se poser la question, qu'est-ce que tu penses du titre, Les oiseaux ivres, Anthony?
Ah, tu me lances ça comme ça, là. j'ai beaucoup pensé, puis je ne sais pas. Mais j'ai le goût de prendre, comme j'ai pris le reste du film à date, depuis qu'on en parle, comme du réalisme magique, dans le sens de le prendre vraiment poétiquement, puis de le prendre comme, ne voulant pas nécessairement directement dire quelque chose associé au film, mais d'essayer de développer les deux mots. Mettons oiseau, à quoi ça te fait penser, toi, Marie?
Je dirais on associe souvent l'oiseau à la liberté. Là. C'est peut-être cliché. C'est peut-être cliché ce que je dis là, mais ou la fuite ou le quelque chose d'assez libre là, dans sa circulation, ça peut faire penser peut-être au désir de certains personnages du film de s'évader, de s'affranchir de certaines frontières ou d'aller ailleurs que où il se trouve à ce moment-là.
Aller vers l'impossible, tu sais, on ne peut pas voler en tant qu'humain, on ne peut pas atteindre ce rêve-là. Mais
exact.
Les oiseaux, c'est un peu comme le rêve de voler. Là.
Tout à fait.
Puis, mais ils sont ivres, là, ces oiseaux-là.
Là, ces oiseaux-là sont ivres. Bon, moi, je l'ai vu comme la place un peu du rêve dans le film, c'est-à-dire que l'ivresse, l'enivrement, c'est comme une façon de se sortir un peu de son quotidien, de sa vie quotidienne qui peut être insatisfaisante. Donc, j'ai l'impression que cette ivresse-là, elle a peut-être un sens différent si on le prend pour chacun des personnages. Celle de la jeune fille dont on a parlé, là, qui est dans la ville. Bon, on dirait que c'est de sortir de son milieu rural un peu, où elle est un peu isolée finalement des gens de son âge, de la vie de ville, des grandes fêtes, etc.
Il y a plus qu'un personnage qui cherche à aller vers ses rêves, de sortir de son quotidien puis de sa vie telle qu'elle est, que ce soit par la fiction, que ce soit par l'amour, que ce soit par le sexe, la drogue et ainsi de suite, là.
Effectivement, on sent que ces personnages-là ont souvent un besoin d'ailleurs, comme s'il y avait quelque chose qui les habitait, les poussait pour aller plus loin. C'est ce qui entre en conflit aussi chez les personnages. Donc, c'est peut-être ça, ces oiseaux ivres-là. J'ai l'impression que chaque personnage
est un oiseau ivre.
Est un oiseau ivre, à une certaine façon. Ça peut peut-être même nous permettre de parler de leur incompréhension. T'sais. Puis s'ils sont ivres, bon, ils sont peut-être pas si proches de la réalité que ça, tu sais.
En parlant du film avec toi comme ça, ça m'a donné le goût d'aller le voir. Est-ce que toi, tu conseilles à nos auditeurs et auditrices d'aller le regarder?
Ben oui, auditeurs et auditrices de Café à Sécurité, allez voir ce magnifique film. Honnêtement, c'est un des très bons films que j'ai vu récemment.
Oui. Je ne sais pas s'il va être encore au cinéma, dans plusieurs cinémas, lorsque vous nous écoutez en ce moment, mais c'est sûr qu'il va être disponible. S'il se rend aux Oscars, on va en entendre parler encore longuement. On va... merci, Marie.
Ça fait plaisir.
J'ai bien aimé ça. On va se laisser avec la chanson qui ferme le film. Une découverte pour moi. Un certain Mazouni, un dandy algérien, comme Internet nous dit. Fait qu'on se laisse avec la chanson « Écoute-moi, camarade ». Bonne soirée.
Écoute-moi, oh camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends. Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Mais elle ne t'a jamais mis camarade. Elle profite de toi et tu es content. Même ses paroles sont froides, tu dois les sentir pour autant. Regarde-toi bien dans la glace et réfléchis si c'est important. Tu as choisi une épinilasse, ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. ne compte plus sur ses promesses. Elle t'aimera pas même à 100 ans. Elle t'a joué la double face. Elle changera à chaque instant. Elle t'a pris pour un imbécile, mais toi tu trouves tout ça c'est bon. Ne me dis pas non, c'est inutile, car pour moi tu es un con. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Sois un peu fière, laisse-la tranquille. Elle se moque de toi, ça se voit, non? Je te comprends, ce n'est pas facile, car où tu marches, tu crées son nom. Ce n'est pas pour tes beaux yeux au fait, c'est t'a pris le bras devant les gens. Toi tu veux jouer Roméo et Juliette, mais elle ne pense qu'à l'argent. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Tu deviens solaire à cause d'une fillette, toi qui te crois intelligent. Excusez-moi, vraiment tu es bête, ce n'est pas de ta faute, monsieur Pigeon. Je t'en prie, oh camarade, on dirait tu n'es pas là. Moi je connais ces rigolades, je suis déjà passé par là. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais qui est ce camarade? Je parle seul, personne n'est là. Alors c'est moi le camarade, le pauvre con, et me voilà.
Pour terminer cette émission en beauté, voici deux extraits du nouveau mini-album de Safia Nolin qui s'appelle Seum, S-E-U-M, et qui est paru le 29 octobre dernier. Donc voici 1000 et PLS. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine!
Thank you. CKUT for a buffet of McGill musical talent, November 8th at Gertz Bar. Start off the night with the sweet sounds of Sarah Cryer. And finish it off with the earful of Societal Siege. Doors are at 6:30, show starts at 7, admission is free. Bring your audio appetite.
Amigos, bienvenidos a nuestra emisión quincenal, escuchando América Latina, aquí en CKUT 90.3 FM.
Les informaremos a ustedes sobre el arte, la cultura, poesía y turismo.
También tenemos deportes, información actual y mucho más.
América Latina, ¿eres tú?
América Latina es ella.
América Latina es él.
América Latina, somos nosotros.
Argentina,
Bolivia,
Brasil,
Chile,
Costa Rica,
Colombia,
Cuba,
Ecuador,
El Salvador,
Guatemala.